l'heure de pointe
sur Nova.
Car il s'installe en notre studio, notre invité du soir, François Morel, qu'on connaît bien au théâtre, puis à la télévision. Il a été le François Morel des Deschiens, inventé par Jérôme Deschamps et Macha Makeyev. Puis il y a eu des films, on l'a vu chez Jean-Michel Ribes, Christophe Baratier, Tony Marshall, Pascal Thomas et j'en passe. Et puis il y a des spectacles écrits par lui, comme La vie, titre provisoire, ou des pièces où il dit deux mots des autres. Il y a des disques, il y a des livres, il y a évidemment les chroniques radio à France Inter, chez Stéphane Bern et puis dans la matinale depuis un nombre incalculable d'années maintenant. Bref, François Morel nous est devenu très familier. Il vient de publier « C'est aujourd'hui que je vous aime », un joli livre qui racontait ce que c'était que d'être amoureux quand on avait 12 ans dans une France un peu rurale des années 70. Malo, qu'est-ce que vous avez pour accueillir François Morel ?
Eh bien, comme on va parler d'amour, autant écouter une chanson qui parle d'amour.
Bien, c'est un bon objectif.
Donc Mr. Fingers, de son vrai nom Larry Heard, donc c'est un pionnier de la house music. Il sort donc en 1985, donc on est vraiment au tout début, un titre qui s'appelle « Mystery of Love ». Alors vous allez dire, ça parle d'amour, et ben non, ça ne parle pas d'amour, il n'y a que ça, que dans le titre, mais ça reste un très beau morceau que je vous propose d'écouter maintenant.
Bien.
Alors,
c'est un commentaire profond, ouais, musical, ouais. Vous voyez.
Bravo.
C'est un morceau qui peut dire quelque chose aux auditeurs. Il a été samplé il y a 2 ans par Kanye West.
Ah bah voilà. Ouais.
À l'heure de pointe.
18h, Nova. 19h30.
Il n'y a pas d'urgence, on est coincé.
Bonsoir François Morel.
Bonsoir.
Merci beaucoup de venir passer l'heure de pointe avec nous.
Plaisir.
On est très content de vous recevoir. Le premier prétexte, mais c'est un prétexte important en fait, c'est un petit livre que vous venez de publier qui s'intitule « C'est aujourd'hui que je vous aime », qui est un très joli petit livre.
Je l'aime beaucoup.
C'est vrai, vous l'aimez beaucoup ?
Ouais, j'en suis fier. Ouais.
Oui,
c'est quoi le point de départ? Oui, pardon, pourquoi vous en êtes fier d'abord?
Pourquoi j'en suis fier? Parce que je fais souvent des livres où je réunis des chroniques, donc des choses pas tout à fait inédites, alors que là, je me suis concentré sur un sujet, et puis que à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je crois que je trouve le ton de comment j'ai envie de raconter ça, et je, voilà, donc j'en suis content.
Parce que le sujet, on pourrait dire que c'est être amoureux à 12 ans dans la France de la fin des années 70. En gros, c'est ça.
Ouais.
Mais le truc que vous trouvez, parce qu'il y a un vrai truc formel, si on peut dire, c'est que c'est donc il y a une héroïne, celle dont on est amoureux, hein, Isabelle Samain. Mais il n'y a pas de jeu ou un autre personnage qui aurait un nom, etc. Ceux qui sont amoureux.
J'aurais pas inventé un truc en fait littéraire.
Mais je me posais la question. Alors, non, il y a eu des ils, des vous,
oui,
etc. Mais vous, c'est
vous.
Tous les hommes.
Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est pas Michel Butor qui prend le lecteur comme le.
Si. Ouais, dans la modification.
Là, c'est les hommes, oui. C'est parce que je me suis dit, moi, j'aime bien le décalage entre le particulier et le général. Et que ça m'a semblé juste. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme c'est des toutes petites histoires, minuscules, que tout le monde a plus ou moins vécues, je trouvais ça amusant d'en faire comme une espèce de conférence un peu sérieuse. Donc, les hommes ont vécu ça, ont connu Isabelle Samain, les hommes sont tombés amoureux d'Isabelle Samain.
Voilà, ça donne des phrases que, comme j'en ai lu tout à l'heure, voilà, le matin, aussitôt que se lèvent les hommes, se posant mille questions, ils pensent à Isabelle Samain. Voilà. Mais vous savez que ça produit un effet qui est vachement fort, c'est que, du coup, se retrouve, surtout quand il est homme, se retrouve un de ces hommes et revit en vous lisant exactement le sentiment très bizarre, très particulier des amours enfantines, être amoureux quand on a 12 ans. Mais comment vous avez fait pour vous souvenir de tout de ce que c'est comme c'est bizarre d'être amoureux à 12 ans?
Je sais rien. En fait, j'avais écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Les habits du dimanche, qui était une évocation de l'enfance entre imagination et réalité. Et puis, j'avais pris beaucoup de plaisir à jouer ce spectacle-là plus de 350 fois. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que sinon, je vais faire que ça dans ma vie. Et j'avais commencé à écrire la suite. Et puis, j'ai été happé par d'autres projets et j'ai mis ça de côté. Et puis, j'ai rencontré Martine Laval, qui était journaliste à Télérama pendant des années et qui m'a parlé de cette collection, ce que la vie signifie pour moi, avec ce qui m'a permis de lire le texte que je ne connaissais pas de l'auteur de Martin Eden. Et j'ai un trou tout d'un coup.
Jack London?
Ouais, c'est Jack London, exactement. Et puis j'ai trouvé ça très beau, et je me suis dit aussi, l'adolescence et ce début de texte que j'avais commencé, ça peut être intéressant sur justement ce que la vie signifie pour moi, le moment où on se construit entre 12 et 15 ans, où on pourrait et puis on commence à avoir des relations avec des copains, avec les filles et tout ça, et puis on peut devenir un brave type ou un salaud. Enfin, on peut.
Après, ça se joue là.
Bon, ça peut se jouer là, j'ai l'impression.
En tout
cas, c'est ce que je me suis raconté, mais je sais pas, parce que je suis pas un spécialiste de rien, d'ailleurs.
On va écouter juste un extrait des habits du dimanche, justement.
Plus tard, je voudrais être chef d'orchestre, trapéziste, artiste de music hall, n'importe quoi, mais pas adulte.
Selon nos parents, le monde est essentiellement divisé en deux catégories. Ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous.
C'est marrant que vous ayez choisi ça.
Alors en fait, je peux vous dire, on les a attrapés dans un document de l'INA.
Ah oui.
Ouais. Parce qu'il n'y a pas l'intégralité.
J'avais dû faire un DVD à l'époque.
Ah oui, ouais, bon, vous savez, les DVD. Justement, tiens, si on parle de techno, c'est rigolo parce qu'en fait, en vous lisant, je me disais, ce qui était très beau aussi dans cette évocation de l'amour à 12 ans, c'est que c'est un amour à 12 ans il y a 30, 40 ans. Voilà. Je me disais, mais aujourd'hui, vous savez, François Morel, les gens, ils s'envoient des photos de Zizi par les réseaux sociaux. C'est plus du tout comme ça que ça se construit.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pudeur là-dedans. Et quand il y a des mots grossiers, il y a l'impression d'être extrêmement audacieux, alors qu'effectivement, c'est plutôt gentil. Oui.
Et pour reprendre le mot du spectacle, vous regrettez d'une certaine manière d'être devenu adulte, ou alors vous l'êtes pas complètement, je sais pas.
C'était un peu une façon de dire parce que en fait les gens qui jouent à l'adolescent à mon âge, par exemple, ils ont tendance à m'agacer. Quoi. Je ne mets pas une casquette à l'envers pour avoir l'air jeune, je m'en fous. Moi. Puis en plus, je fais un métier où je m'amuse beaucoup, où je suis beaucoup dans la relation. Je crois qu'en fait, je n'ai pas tant de nostalgie que ça, parce que je crois que je m'amuse plus aujourd'hui que quand j'avais 12 ans ou 14 ans.
Pourquoi c'était quoi votre vie?
Bon, des fois, on s'ennuie un peu quand même. Donc, en même temps, l'ennui, sans doute, était formateur. Mais je regrette pas d'avoir... Je me suis pas amusé comme un fou avant 25 ans.
Et c'était quoi votre vie à 12 ans?
Avant 20 ans, d'ailleurs. Ouais.
Vous étiez où
J'étais en Basse-Normandie, à Flers. Non, mais plutôt enfance heureuse, sympathique et tout ça. Mais enfin, à partir du moment où j'ai commencé à faire des spectacles et à inventer des choses, à écrire, à ce qu'on me dise que c'était intéressant, ce que je pouvais écrire ou jouer, je suis devenu plus heureux quand même.
Ouais, mais il faut quand même quelque chose pour être capable de restituer ce que c'est que l'état adolescent face au monde. Il ne faut pas l'avoir complètement perdu, parce que moi, je n'en serais pas exactement capable, je pense, par exemple.
Bah, avant de faire les choses, on ne sait pas si on en est capable. Donc peut-être que si vous vous concentriez suffisamment pour vous mettre dans la peau du petit garçon que vous étiez il y a 12 ans, ce qui vous concerne.
comme vous êtes aimable, François Morel.
Et peut-être, à mon avis, vous pourriez y arriver.
Ah, vous croyez? Ben, j'espère.
Nova.
L'heure de pointe.
François Morel, on continue notre discussion. On va parler du spectacle sur ou à partir de Raymond Devos que vous êtes en train de jouer en ce moment. Et puis aussi, on va parler d'un autre texte, parce qu'il se trouve que vous avez plein de choses en même temps.
Mais j'ai toujours plein de choses en même temps, c'est le problème. Il faut que je me calme.
Ah, bah peut-être qu'on pourra en parler un petit peu de ça, sais pas. C'est un texte que, voilà, sur les cheminots, etc., parce qu'il y a rapport à votre père et tout ça. Enfin bon, on parle de tout ça dans quelques instants, après la pub, la musique et l'antiflash de 19h.
Nova.
Nova. L'heure de pointe.
My homies blowing trees, wavy like the seven seas, living life. Let me get it right, let me give it a minute to get up in it like a beautiful independent woman that's finna make you wait to smash. Come now, let me count this cash. Come now, let me sip this flash. Pockets fat like shawty ass. Jump in the whip, gotta get this gas. Put that shit in drive, I'm live like ammunition. No permission needed, I proceeded to accelerate. Had days with hella hate, but gotta let that anger migrate. All this shit that's on my plate, that food for thought that can't be bought, but only taught. And on the real, no, I can't get much. Higher, we smoking and fire, ride around the city with my homies that know me, know that I can't get much higher. Words of my supplier, why you break it, roll it, light it, use that fire, ignite it. I can't get much higher, we smoking and fire, ride around the city with my homies that know me, know that I can't get much higher. Words of my supplier, why you break it, roll it, light it, use that fire, ignite it. I can't get much higher.
Nigga, like we smoking all weekend, and I roll that smoke when I'm drinking, till I'm up in that dope, but don't. We been having the OG Kush meeting. If we smoking that dope, it's a reason. I some love from the chief end. I'ma get high when I wake up and roll me one more before I'm sleeping. Man, I be smoking so good that I be forgetting the past. It don't even come to my house if it ain't wrapped up in a turkey bag. We roll up the Urban Lab, kick back, blow a sip, take it on the plane. No, I smoke the same when I'm on a trip. Nigga like me always got weed on her. Try to tell me that she don't smoke later on, she joining. Ain't no point, no, I'm back, keep going in. You been rolling with cats who boring. I be bringing the stacks enormous. Section always in the back important. Bad bitch gorgeous, pack important. Something, smoke a little something, kick back and then floss. Chief in that indica, indica, cut my anxiety to get lost. Fuck a pill, only none of pain, man, you know how much that shit costs. I ain't talking about your pocket, no, I am only talking about the mind. When the cannabis combined with the brain, it be like everything you seen to seem to shine. Smoking that Golden State, everything going great. Got a lot on my plate, not a single complaint. Stack of money in the bank. This that rap pack and that Taylor gang. They know the face and they know the name. I'm a married man with a bad wife. Never fuck around unless it's Mary Jane. Come play the game. Now this ain't never the same. Just like my flow. Got one for every occasion. Living that life so my life is amazing.
I can't get much higher. Words of my supplier, while you break it, roll it, light it, use that fire, ignite.
C'était le rappeur du Maryland Logic qui accueille Wiz Khalifa pour ce titre Indica Badou, titre qui apparaît sur l'album Body Tarantino 2, qui est un hommage à Tarantino à qui Logic doit d'avoir rencontré le rap. Dans quelques instants, on vous retrouve, François Morel. On discutait de C'est aujourd'hui que je vous aime, le petit livre que vous venez de publier aux éditions du Sonneur. On va en parler peut-être, mais on va continuer à parler de Raymond Devos par exemple, et puis d'un autre petit texte que vous avez produit sur les cheminots. Enfin bon, vous avez une actualité qui est d'une densité telle, François Morel. Tout ça, ce sera après l'anti-flash de 19h.
Tout d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Vous trouvez pas qu'il fait chaud ici, hein?
Oui.
Et il nous donne un misérable ventilateur et qui marche même pas.
Comme c'est drôle les saisons. Avant il y en avait, maintenant il y en a plus.
T'as raison, il fait pas chaud.
Quelle heure est-il ?
7h du soir.
Amusant.
C'est Nova.
19h sur Nova et comme ailleurs, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. C'est l'heure de l'anti-flash sur Nova. L'information, ce n'est pas nous qui vous la donnons, mais c'est vous qui nous en parlez parce que l'actualité, ce n'est pas simplement ce que les journalistes décident d'y mettre, mais c'est aussi ce que vous avez dans vos têtes. Et ce soir, c'est le bonheur ou plutôt le mal-être des Français. Une étude récente confirme que les Français restent les champions du mal-être en Europe. Et donc le malheur, selon les Français, c'est dans l'anti-flash d'Olivia Muller.
L'heure de pointe.
L'anti-flash.
C'est l'anti-flash sur Nova.
Peut-être que les Français sont pas contents parce qu'il y a la grève.
Et il y a la pollution, donc il y a tout le monde qui jette les papiers.
Pour toi, ça contribue au malheur des Français, la pollution ?
Oui.
Et peut-être qu'on pourra même pas tenir 500 ans.
Comment vous imaginez la Terre dans 500 ans ?
Il y aura plus d'oxygène, donc on pourra plus respirer. Toute vide, que des déchets partout, plus d'océans, plus d'animaux.
C'est horrible !
Oui. Il y a beaucoup de chances que ce soit comme ça.
Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, dans la vie ?
C'est aussi le bonheur d'être né, parce qu'on peut faire du sport, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. Donc c'est pour ça qu'on veut toujours rester enfant.
L'étude dont je vous parle dit aussi que, pour les Français, une des conditions du bonheur, c'est l'argent.
Parce que les Français, ils croient que sans l'argent, ils n'ont rien et qu'ils ont besoin d'argent pour vivre, alors que l'argent, c'est qu'un objet. Et aussi, la France, c'est un pays riche, on gagne beaucoup d'argent et les gens, ils sont heureux parce que leur but, c'est d'être millionnaire ou milliardaire.
Pourquoi c'est un but de gagner de l'argent ?
Parce que les Français, ils disent que en fait, s'ils n'ont pas d'argent, et systématiquement, ils n'auront rien après.
Même si on a de l'argent ou pas, et on est toujours heureux.
Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'on peut bien être riche et pas avoir d'amis, et là, on peut pas être heureux. Peut-être mieux vaut être pauvre et qu'avoir plein d'amis qu'être riche et pas avoir d'amis.
L'amitié, c'est ce qui compte le plus pour toi ?
C'est cool d'avoir des amis, puisque si t'as pas d'amis, tu te sens seul et t'es triste.
Quand t'as pas d'amis, t'es abandonné, tu t'ennuies.
Si on n'a pas d'amis au début, après, si on voudra avoir des amis, dès qu'on sera adulte, qu'on voudra faire des connaissances avec des personnes, ça va pas marcher. Donc vaut mieux essayer de faire des amis d'abord à l'enfance, qu'après, dès qu'on sera adulte.
On dit que certains Français se sentent seuls, justement.
Peut-être que les Français sont timides et qu'ils veulent être les meilleurs.
Tu penses ?
Oui, ou qu'ils sont trop timides pour aborder le sujet et ça te dirait de faire un truc avec moi et tout ça.
Dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les Français soient plus heureux ?
Les aimer, les apprécier et les encourager à faire les choses.
Pour être moins timide et plus et pour accepter tout le monde.
L'anti-flash.
L'anti-flash.
C'était Jacques, Tristan, Lucie, Marine, Elisabeth et Tom. Ils ont entre 8 et 10 ans et Olivia Muller les a croisés au jardin d'acclimatation dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà, comme quoi finalement... je ne sais pas ce que j'allais dire.
Voilà, comme quoi.
Comme quoi. Comme quoi les enfants, c'est tellement merveilleux.
Nova.
Nova.
18h.
L'heure de pointe.
19h30. C'est l'heure de pointe sur Nova.
Alors, dans votre vie absolument foisonnante, François Morel, vous écrivez ce livre dont nous avons parlé tout à l'heure, et puis un spectacle sur ou autour de Raymond Devos, cet immense comique décédé. Mais quand est-ce qu'il est mort ?
Je crois qu'il est mort il y a 12 ans.
Il y a 12 ans.
Oui.
Alors, vous avez monté un spectacle qui s'appelle J'ai des doutes. J'ai des doutes, ça reprend le nom d'un sketch de Raymond Devos. On va juste en écouter, Malo, juste trois secondes.
J'espère qu'en rentrant chez vous tout à l'heure, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, mesdames, messieurs, parce que moi, hier soir, en rentrant dans mes foyers plutôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là, il ne se sert pas de mes affaires. Ah, j'ai des doutes.
Vous le connaissez par cœur, ce sketch?
Ah ben, c'est mieux, oui.
Parce que vous le redites, parce que
je dis
vous le refaites.
Ouais, ouais.
Donc c'est quoi le principe du spectacle?
Le principe du spectacle, c'est de s'amuser avec l'auteur Raymond Devos. En fait, c'était au départ une sollicitation de Jeannine Rose, qui est une productrice essentiellement de spectacles de musique classique.
D'accord.
Et elle avait été aussi, par ailleurs, secrétaire de Barbara dans les années 60 jusqu'en 68. Donc elle avait beaucoup fréquenté les cabarets, elle a beaucoup rencontré notamment Raymond Devos. Et il y a 2 ans, c'était le 10e anniversaire de la mort de Raymond Devos, et elle avait envie de lui rendre hommage. Et elle a pensé à moi, comme quelques années avant, elle avait eu l'idée de rendre hommage aussi à Fernand Reynaud. Mmh. Elle avait sollicité à l'occasion Jean Rochefort, qui avait fait un spectacle qui s'appelait Heureux, point d'interrogation, et qui était un spectacle absolument magnifique, qu'il avait dû faire, je crois, avec Bruno Coulet, je pense, au piano, qui jouait des musiques de Satie. Et c'était formidable, parce qu'il faisait entendre toute la tristesse et tout le côté pathétique des textes, enfin des personnages qu'interprétait Fernand Reynaud. Et donc, bon, elle a eu envie de rendre hommage à Devos. Elle m'a demandé de le faire. J'ai travaillé 3 jours avec mon ami Antoine Salaire chez moi en Bretagne, et on a fait une première présentation à côté de Vannes, et puis on est allé au Théâtre des Champs-Élysées à 11h un dimanche matin pour dire ces textes-là. Et puis, comme je m'étais bien débrouillé pour les coincer dans différents endroits, on a cru que je les savais par cœur, que j'avais monté un spectacle en 3 jours. Et c'est vrai que finalement, cette lecture-là ressemblait déjà à un spectacle. Et puis, parce qu'on ne se rend pas compte, comme quand on prend en charge un texte comme ça, c'est pas fait pour être lu, en fait. Je l'ai vu dans des livres. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans les livres et des choses qui m'amusaient, etc., que je trouvais intéressantes. Et puis, quand je l'ai fait devant 1000 personnes au Théâtre des Champs-Élysées, je me suis dit, mais quelle vertu comique ça a encore aujourd'hui. Et puis, je trouvais ça intéressant de jouer du Devos, qui est complètement en dehors de l'actualité rire.
Ouais,
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus voir un journaliste sans qu'il vous pose la question, peut-on rire de tout? Donc, la référence, c'est Pierre Desproges, c'est souvent Coluche, mais c'est plus jamais Raymond Devos.
Et vous, tu lui trouvais quoi, vous, justement, à la forme d'humour de Devos?
D'abord, moi, ce que j'aimais, c'est que c'était... Souvent, on le caricature bêtement, c'est-à-dire qu'on en fait un type qui faisait des jeux de mots derrière un micro, et c'est vachement mieux que ça. C'est-à-dire, moi, j'ai le souvenir de l'avoir vu quand j'avais 18 ans, au théâtre de Caen, et j'étais devant un monsieur qui était un roi du music-hall.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'était à la fois, il était un mime, il était musicien, des fois peut-être un peu imposteur, parce qu'il faisait croire qu'il était musicien, alors qu'il n'était peut-être pas aussi bien qu'il le laissait croire. Mais enfin, tout ça, on s'en fout, parce que le théâtre, c'est le lieu de l'illusion. En tout cas, ce qu'on voyait, c'était un truc merveilleux où à un moment donné, il attachait le bas de son pantalon avec ses bretelles. Il faisait la descente du lemme. La lumière changeait et on était avec Armstrong. Et c'était magnifique, quoi. C'était extrêmement poétique, drôle. Il avait tout un jeu avec son pianiste. C'était plein de choses. Enfin, il y avait plusieurs niveaux de lecture aussi. Il y avait des plaisanteries toutes bêtes, et puis en même temps aussi il faisait rire avec cette espèce d'angoisse devant la vie, devant la mort, et pourquoi on était sur Terre. Enfin, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, puisque Raymond Devos, il faisait rire avec le cosmos, avec la mort, avec l'inutilité de la vie, etc., avec des choses très profondes.
En même temps, c'est ce que vous disiez vous-même, c'est-à-dire qu'il est hors de l'actualité du rire aussi, parce que le rire aussi a un peu changé.
Sûrement.
Par exemple, il y a un truc très très fort aujourd'hui en France, qui est la question du rire communautaire.
Ouais.
C'est dit comme une critique, hein, alors que moi je ne le vois pas forcément comme une critique, mais qui est une forme de rire très très forte aujourd'hui. Devos, il est dans une forme de rire où il n'y a pas de communauté, quoi. Enfin, c'est autre chose.
Moi, j'ai toujours un peu le fantasme aussi, de réunir les gens devant un spectacle. Et que j'ai plutôt envie, je me dis, quelle que soit la nationalité, la couleur de peau, la sexualité, on peut rire de plein de choses ensemble. Et je trouve qu'il y a tellement de choses qui nous divisent que quand on va au théâtre, moi j'ai plutôt envie d'être réunis. Et j'ai un peu toujours ça, même, même dans mon écriture. Je sens bien que je, même si on me voit comme plutôt un type que plutôt situé d'un côté que de l'autre, souvent dans mes chroniques ou dans mon travail, en général, j'ai plutôt envie de réunir. Parce que j'ai envie de, que ce que j'apporte puisse être un peu consolateur.
Nova.
Nova.
L'heure de pointe.
Ce qui est parfait pour Sam Morel, c'est que vous faites les transitions vous-même, puisque c'est exactement de ça dont j'aimerais qu'on parle, quelqu'un qui est situé plutôt là que là, mais qui voudrait réunir, etc. On en parle dans quelques instants après la pub et la musique.
Nova.
L'heure de pointe.
Vous avez reconnu Bob Marley?
Oui.
Ouais. Waiting in Vain, extrait d'un album qui s'appelle Dreams of Freedom, qui est un album de remix du répertoire de Bob Marley, qui était paru en 1997. On va continuer notre discussion avec vous. Préparez-vous, j'aimerais vous faire lire un tout petit extrait de texte.
Nova.
L'heure de pointe.
C'est mieux ici qu'ailleurs.
C'est pas des...
Ah, parce qu'on cherche des lunettes, c'est donc est-ce que... Alors, je voudrais que vous lisiez.
Vous invitez des personnes âgées.
Oui, mais d'habitude, elles ont leurs lunettes autour du cou avec une petite ficelle. Vous y arrivez ou pas?
Ça va aller.
Ça va aller? Alors, parce que faut que j'explique aux auditeurs et auditrices, c'est que donc vous veniez, et puis il nous est arrivé sur la table ce matin un livre qui s'appelle La bataille du rail, qui est un texte, enfin, qui est un livre
avec
qui recueille.
Des auteurs pas mal. Hein.
Voilà, donc c'est les éditions Don Quichotte qui font ça. C'est un livre un peu d'intervention qui demande à des auteurs de dire ce qu'ils pensent, d'évoquer, disons, les questions des cheminots, de la SNCF, etc.
Avec un texte de Annie Ernaux, un autre de Laclaftine, Hervé Lecor, Gérard Mordillat, Jean-Bernard Pouy.
Ouais, là, mais là, vous faites en sorte d'éviter la lecture de votre texte,
non,
François Morel. Je vois bien la stratégie.
Non, non.
Mais, et donc, je vous ai
Qu'est-ce
pas.
Que vous, je commence où
J'aimerais bien, en fait, que vous lisiez les deux derniers paragraphes à partir de là.
Ah ouais. Papa, tu faisais partie du vieux monde, celui de la lutte des classes, celui des patrons et des ouvriers, celui des directeurs et des employés, des profiteurs et des victimes d'un système toujours plus dur aux faibles. Tu faisais partie du vieux monde avec ses contradictions. Toi qui rêvais que tes enfants puissent emprunter l'ascenseur social, n'avais-tu pas peur de t'éloigner de ta descendance, quitte à risquer l'incompréhension? Papa, il y a presque 25 ans que tu as quitté le monde et je pense à toi. Aujourd'hui, je vis dans le nouveau monde où un rapport récent montrait que 1% de la population y était plus riche que les 99% restants, où des gens modestes qui se battent pour leurs droits sont traités de privilégiés, où l'arrogance des puissants, leur mépris, leur condescendance s'expriment aujourd'hui derrière des airs cool, dégagés, décontractés. Quelque chose me dit que si venant de l'ancien monde, papa, tu débarquais dans le nouveau, tu ne serais pas si dépaysé que ça.
Merci. Votre père était cheminot, c'est ça?
Cheminot, oui.
Ouais.
Ouais.
Et syndiqué?
Syndiqué à la CGT, bien sûr, oui.
Et donc, quand on vous a demandé un texte, pour vous, c'était évident que tout ce qui se passait aujourd'hui faisait écho à ce que vous aviez connu autour de la table, les discussions?
Je ne me sens pas forcément toujours très légitime pour parler de politique, parce que je fais partie des gens privilégiés aujourd'hui, qui sont privilégiés parce qu'ils font le métier qu'ils aiment et qui choisissent les gens avec qui ils travaillent. C'est un privilège incroyable qui peuvent choisir de travailler 2 mois sur Raymond Devos et rêver autour de plein de choses comme ça. Mon père, c'est pas la vie du tout qu'il a eue. Et puis c'est vrai que j'entends toujours des choses assez violentes sur le fait qu'il y aurait des privilégiés et que ces privilégiés gagnent 2000 euros par mois, 2200, et que ça, je trouve ça choquant de dire ça, quoi. Et que je suis né là et j'ai pas, moi je sais d'où je viens et je ça fait partie de moi et je crois que je mourrai avec ça, avec aussi une espèce de révolte et de sentiment de classe. Je pense que la façon dont je traite les gens aujourd'hui avec moi autour de ça, ça vient de là aussi, ça vient du fait que je trouve qu'il y a des choses qui me révoltent et qui font que des gens se comportent mal vis-à-vis d'autres, quoi.
Mais quand vous dites la façon que j'ai de me comporter avec les gens, vous pensez à quoi?
Parce que moi, je suis devenu une espèce de patron. Ouais. Je suis gérant de mon entreprise, donc je travaille avec des gens. Et ça m'importe de bien les traiter.
Et cette espèce...
Et surtout, de les traiter aussi avec respect, quoi. Je pense que... bien sûr, l'argent, ça compte, et ça compte vachement, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le petit mot, là, ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que l'argent, c'est... Qui est-ce qui disait ça? C'est Jules Renard. Si vous n'aimez pas l'argent, rendez-le. Je trouve que l'argent, ça marque bien quand même les rapports entre les gens. Et il ne suffit pas de rendre hommage aux gens avec qui on travaille, il faut aussi les payer, quoi.
Mais donc, parce que quand vous dites tout ça, je pense à vos chroniques sur Inter, ça fait maintenant presque 17 ans.
Ah non !
Bah si !
Vous exagérez. Bah,
Stéphane Bern, vous êtes arrivé quand ? Vous êtes arrivé 2000.
Ah oui, mais là, il ne faut pas les compter tout à fait. Parce que c'est avec Stéphane, j'ai fait ça pendant 2 ans.
D'accord, mais enfin bon, alors ok.
Alors j'ai fait 2 ans, 2 fois par semaine. Et puis j'ai arrêté parce que j'ai traité le le chapeau de Madame de Fontenay plusieurs fois, je me suis dit, je vais arrêter, quoi.
Ah ouais.
Faut que je passe à autre chose. Et là, je me sens plus à ma place le matin, une fois par semaine, pour parler de ce que je veux, de l'actualité ou pas, etc.
Mais justement, alors, parce que c'est marrant, il y a un truc étonnant dans vos chroniques, c'est que certaines...
C'est bien qu'il y ait un truc marrant.
Non, j'ai dit, c'est marrant, il y a un truc étonnant. Ah donc oui. C'est pas... Non, mais c'est que à la fois, elles peuvent être extrêmement dures, très frontal, hein, parfois ouais, vous êtes ouais. Hyper. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose, je sais pas, qui au bout d'un moment rend les choses plus tendres. Je sais pas comment l'expliquer, quoi. Il y a une sorte de tension bizarre entre justement une sorte de révolte. On sent que ça vous outrage. Et je sais pas comment vous faites pour à chaque fois adoucir ça.
En fait, c'est parce que je pense qu'elles sont proches de moi et de. Enfin, je. J'essaie toujours d'être au plus près de moi-même et de mon sentiment, de ce que me fait l'actualité, ou d'essayer de m'en échapper aussi de temps en temps, parce que souvent on a envie de s'échapper quand même de cette réalité quand enfin, c'est trop dur.
En même temps, vous êtes arrivé là, la première chose que vous avez demandé, c'est un journal. Hein. Vous étiez un peu en avance.
Ouais.
Donc c'est ça, donc vous lisez le journal.
J'aime bien faire les mots croisés de Philippe Dupuis dans Le Monde.
C'était ça que vous avez fait. Bon, non, mais et est-ce que vous pensez que ces petites chroniques, parce que c'est pas grand-chose, c'est 2 minutes 30.
3 minutes.
3 minutes, ouais. En fin de matinale d'Inter, est-ce qu'elles ont quand même pour vous une fonction politique, quoi. C'est le moment où vous dites un truc.
Bon, une fonction politique pour moi, en tout cas.
Ouais, pour vous, bien sûr.
Oui, pour moi, oui, de temps en temps, oui. C'est-à-dire, ça m'oblige justement à lire la presse, à me connecter toujours sur ce qui se passe dans le monde et voir ce que ça me fait, moi. Voilà, c'est pas plus que ça. Des fois aussi, des fois, ce que j'aime bien aussi, c'est être léger.
Ouais, bien sûr.
Et pouvoir parler d'autre chose, d'un truc, d'un détail et tout ça, et de faire rigoler avec rien. Et j'aime bien ça aussi. Parce que parfois, ça me paraît aussi plus difficile. J'ai pas toujours envie de me mettre dans la position du garçon qui fait rire, mais qui a une pensée, parce que ma pensée, elle est aussi un peu fluctuante parfois.
Merci beaucoup, François Morel. Alors, donc, bon, on peut vous entendre tous les vendredis matins sur France Inter. Votre spectacle qui s'intitule J'ai des doutes, donc autour sur Raymond DeVos. Vous êtes le 29 et le 30 mai à Suresnes. Vous serez à Châlons-en-Champagne 4-5 juin, Château-Vallon 7-9 juin, Quimper 12-13 juin. Puis après, vous serez au Théâtre du Rond-Point, mais c'est en décembre.
Ouais.
C'est ça. Et puis, il y a le livre C'est aujourd'hui que je vous aime qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Tout ça. Puis, il y aura la troisième saison de Baron Noir. Enfin, c'est dingue.
C'est fou.
Vous êtes vieux, mais, mais pas mort.
Merci.
Voilà, merci beaucoup, François Morel, d'être venu passer l'heure de pointe avec nous. Demain, on recevra la grande critique musicale du monde, Véronique Mortagne, et aussi de Nova, d'ailleurs. Elle vient de publier un très beau livre sur le couple Birkin-Gainsbourg, 68, la rencontre, etc. C'est toute une histoire de ce moment-là. Donc, Véronique Mortagne, demain, pour parler Gainsbourg et Birkin dans l'heure de pointe. Bonsoir, Malo. C'était
Bonsoir.
Un plaisir.
Merci à vous.
Et puis, c'était Marine Benayoun à la programmation. Tout de suite, c'est le Nova Club avec Sophie Marchand et David Blow, et ce soir, ils reçoivent le compositeur et producteur Oneotrix Point Never. Nous, on se retrouve demain. Bonne soirée à toutes et à tous, et à demain.